Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Avec moi sur ce plateau, Carole Barjon, qui est éditorialiste politique au Nouvel Obs. Bonjour Carole.
Bonjour Marc.
Henri Werner, rédacteur en chef adjoint du Parisien.
Bonjour.
Et Pierre Jacquemin, qui est rédacteur en chef de la revue Politis.
Bonjour Marc.
Et enfin Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour.
Hello Marc.
Alors pour marquer ces 100 jours à Matignon, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu ce jeudi à Viry-Châtillon, en région parisienne, une ville qui a récemment été marquée par la mort d'un adolescent de 15 ans passé à tabac. Le Premier ministre y a prononcé un discours vigoureux sur le thème de l'autorité. En effet, il y a eu plusieurs faits divers graves qui ont impliqué des mineurs et qui ont défrayé la chronique et alimenté la notion d'un ensauvagement de la société, selon les termes du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On écoute le Premier ministre Gabriel Attal promettre une contre-attaque républicaine.
Comment accepter qu'on touche, qu'on salisse, qu'on s'en prenne à ce qu'il y a de plus sacré en République ? Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence ? Oui, je parle de spirale. Oui, je parle de déferlement. Oui, je parle d'addiction. Et non, on ne peut pas l'excuser. C'est pour cela que nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité. Ce sursaut d'autorité, c'est une réponse à l'incompréhension, la sidération. Oui, la sidération de nos concitoyens.
Sursaut d'autorité, il y a eu beaucoup de propositions que le Premier ministre a mis sur la table ou va mettre sur la table. Carole, c'est un thème sur lequel il s'était déjà affirmé, j'allais dire, avant de devenir Premier ministre. Est-ce que c'est une bonne stratégie, d'après vous ?
Alors, il s'était illustré, effectivement, en faisant preuve d'autorité sur le port de l'abaya, ce qui était, on va dire, relativement simple, parce qu'il pouvait y avoir effet immédiat. Là, c'est un autre sujet, parce que la délinquance des mineurs, c'est quand même un vaste problème qui a plusieurs... lui-même l'a dit, d'ailleurs, dans son discours. Il y a à la fois peut-être la responsabilité des parents qui ne tiennent pas suffisamment leurs enfants. Il y a les conditions à l'école. Il y a l'absence, comment dire... la perte d'autorité qu'il faut rétablir, etc. Maintenant, moi, il y a deux choses qui me semblent un peu étonnantes. D'abord, c'est les propos de Macron en Conseil des ministres hier matin, je crois, où il a parlé de surgissement de la violence des plus jeunes. Alors là, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais ça fait des années qu'on constate que la délinquance se répand de plus en plus chez les enfants, enfin oui, presque les enfants, et pas seulement chez les collégiens, premier point. Deuxième point, il y a quand même eu les émeutes, on se souvient, il y a maintenant presque un an, et où tout le monde avait constaté qu'il y avait des gens de plus en plus jeunes. Donc, bon, je ne pense pas que le gouvernement découvre ça. Et puis, d'autre part, quand Gabriel Attal parle de prendre le mal à la racine, parce qu'il l'a répété, c'est un des fondements de son discours, il parle beaucoup des collégiens. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de violence déjà, alors peut-être pas au même niveau, mais à l'école primaire. Et que, en tout cas, pour ce qui concerne l'autorité qu'il veut restaurer, ou qu'il entend voir restaurer, ça commence à l'école primaire, notamment avec le respect, peut-être qu'il faut réapprendre le sens de la hiérarchie envers les professeurs. Voilà. Et tout ça, ça commence très jeune.
Pierre, on a aussi entendu parler du retour des internats, du fait de se lever quand le professeur entre en classe. Il a donné plein d'exemples. Pourquoi cette volonté de réaffirmer l'autorité parentale, scolaire de la République ? Est-ce qu'il y a danger à ce point-là ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu des faits divers dramatiques qui ont été peut-être mis en exergue dans les médias ?
J'avais déjà la conviction que Gabriel Attal était un parfait candidat naturel pour reprendre le leadership de la droite, française, avec ce qu'il se passe aujourd'hui, avec les premiers pas de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation nationale ou aujourd'hui en tant que Premier ministre où il affirme toujours plus cette volonté de l'autorité de l'État. toujours en reprenant les mêmes thèmes, les mêmes accusations qui ont toujours été celles de la droite, la responsabilité des parents, cette jeunesse de plus en plus violente, comme si c'était les jeunes individuellement qui étaient violents et pas la société, donc une responsabilité sans doute davantage de l'État. Et donc avec des propositions qui sont celles et qui ont toujours été celles de la droite, c'est-à-dire qu'on va sanctionner, on va punir, on va même presque enlever le titre ou le passage de l'enfance, puisqu'il est même presque question, il n'hésite pas à dire que on pourrait enlever le caractère de minorité, de responsabilité des mineurs devant la justice, avec en plus cette espèce d'immersion en milieu scolaire toujours, parce qu'évidemment il a raison sur ce point, c'est que évidemment l'éducation nationale est un angle important de toute politique publique, mais de considérer que par exemple quand vous êtes un enfant perturbateur à l'école, ça pourra vous suivre. Alors il y a eu une fausse information aujourd'hui de France Info qui a repris des termes qui n'étaient pas les siens, mais il y a quand même cette volonté que l'on puisse dire vous avez été perturbateur à l'école, à l'école ou au lycée, ça sera inscrit sur votre...
Ça c'est idiot.
C'est totalement... Non mais surtout, on est vraiment dans le schéma du renouvellement des inégalités scolaires, la manière dont on reproduit les maux de notre société. C'est-à-dire que voilà, il reprend les termes de la droite, il reprend les propositions de la droite, et à aucun moment, alors que là c'est pareil, vous parliez de faits divers, je suis d'accord pour dire qu'on parle de faits divers, et pas de faits de société. J'entends des politiques de gauche, de droite d'ailleurs, qui parlent de faits de société, mais je ne suis pas d'accord avec cette utilisation-là. On ne peut pas faire de cas généraux de ce qui s'est passé, aussi dramatique soit-il, ce qui se soit passé. Moi, j'écoute aussi les intellectuels, les chercheurs qui nous disent quand même qu'il y a une raréfication des adultes autour des jeunes, et c'est plus cet angle-là qui, moi, m'intéresserait d'être pris en charge et d'être pris en compte par les politiques. C'est la raréfaction des éducateurs, la raréfaction des adultes dans les établissements scolaires, dans les quartiers. Et j'entends pas ça de la responsabilité de nos gouvernants.
Henri.
Oui, sur ce dernier point, c'est clair que, essayer d'abaisser la violence, parce que c'est la délinquance, mais c'est également, de manière générale, la violence dans ce milieu, donc des collèges, des lycées, bien évidemment, mais également, vous l'avez souligné, en effet, dans les écoles primaires, parce que les fameux faits divers dont on parle, il arrive qu'ils concernent à petite échelle, bien sûr, également des primaires. Donc, pour lutter contre cela, d'abord, il en est fait temps. C'est vrai que ça n'a pas surgi, là, cette semaine, ni il y a un mois. C'est un phénomène qui ne fait que s'accroître depuis des années. Là, clairement, c'est la présence, en effet, d'adultes, la présence d'encadrement, la coopération aussi bien plus étroite, profonde, réfléchie entre les différents acteurs. Parce que oui, il y a l'éducation nationale, il y a les enseignants, mais il y a également les parents, bien sûr, les associations, les éducateurs dans la ville, hein, dans nos quartiers, partout. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ce qui fait défaut depuis des années, parce que ça se régresse avec tout simplement les moyens de l'État. Maintenant, est-ce que c'est une politique... Vous disiez, votre première question, c'était une stratégie. Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part d'Attal ? Alors justement, quelle est la stratégie ? Est-ce que vous pensez à une stratégie pour réellement s'adresser, enfin prendre à bras le corps ce problème ? Qui en est un ? Moi, je pense qu'à un moment, alors bien sûr, il ne faut pas confondre faits divers et faits de société. Néanmoins, il me semble quand même, y compris justement en lisant aussi, en écoutant des intellectuels et des sociologues que vous citez, que malgré tout, il y a quand même une banalisation du fait de violence, d'un climat de violence qui me semble quand même une réalité et qui devient un vrai problème de société. Une société qui évolue quand même dans un sens... Alors, vous parliez des mots qu'a employé le président, il y a ceux de Gabriel Attal, hein, qui sont véritablement destinés à vraiment attirer l'attention entre le sursaut, la République, on a parlé d'ensauvagement, mais le président a réemployé hier en Conseil des ministres, à propos de ces mesures qui allaient venir, le terme de décivilisation, qui avait fait polémique il y a quelque temps, qui n'a pas hésité à réemployer hier. Donc, sans aller jusque-là, il y a quand même vraiment un phénomène qui est, bon, dont il faut réellement s'occuper. Donc, est-ce que ça, c'est la bonne stratégie ? Ben, on le verra à l'usage. Là, il parle de rendez-vous dans 8 semaines, avec un point d'étape dans 4 semaines. Pas se leurrer, bien évidemment, on ne va pas régler ça en 8 semaines. Donc ça, on le verra. Est-ce que, par stratégie, vous entendez une stratégie électorale, alors qu'on est à la veille d'un scrutin important et qui s'annonce véritablement périlleux pour cette majorité, pour cet exécutif ? Bah là, pour le coup, ça sent justement un peu beaucoup la stratégie, c'est-à-dire que tout ce qu'on entend ce matin, bah, c'est vrai qu'il va clairement, en effet, sur un terrain qui plutôt celui de la droite. Il va sur un terrain qui dont on voit bien qu'il pourrait peut-être essayer de combler un petit peu le retard d'une liste Renaissance, enfin En Marche, qui est quand même à la peine dans des sondages. Et donc il va, et on voit d'ailleurs que ces thèmes-là sont importants dans les motivations de vote, enfin pour le peu de Français qui pour l'instant ont l'intention d'aller voter le 9 juin, on voit que c'est quand même des thèmes qui marquent. Et donc là, il est en plein, il est vraiment en plein là-dedans. Donc oui, il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi une stratégie électorale dans ce plan, dans cette intervention de Gabriel Attal.
Alors Bruno, en parallèle, j'ai juste mentionné qu'il y a un projet de loi qui doit être présenté par le garde des Sceaux sur la responsabilité des parents en matière pénale, avec des volontés de sanctionner les parents qui ne tiennent pas leurs enfants. C'est les mots que Éric Dupond-Moretti avait tenus lui-même pendant les émeutes, et avec des sanctions qui pourraient aller jusqu'à 3 ans de prison. Donc on sent, oui, il y a peut-être de l'électoralisme, mais qu'il y a une volonté du gouvernement de montrer qu'il s'attaque à la racine d'un phénomène multiforme, évidemment.
Le projet de loi dont vous parlez, c'est un projet de loi plutôt pour l'automne, oui. qui n'est pas seulement pour renforcer les peines pour des parents défaillants, c'est aussi renforcer les peines pour les adolescents violents. Donc il y a deux volets. On voit bien que le gouvernement essaie de jouer sur deux aspects. L'autorité parentale, qu'il faut à la fois restaurer, mais aussi responsabiliser. C'est le fameux « tenez les gosses » d'Éric Dupond-Moretti pendant les émeutes. Et puis, à nouveau, remettre sur le métier. Et c'est là où, ce matin, à mon avis, Gabriel Attal a un peu brouillé les pistes par rapport au message et au discours, aux positions très claires d'Éric Dupond-Moretti sur le renforcement des peines des ados violents. Il a une formule, Gabriel Attal, en gros, il donne l'impression de vouloir remettre sur la table la question tant souhaitée par la droite et l'extrême droite de l'excuse de minorité.
C'est-à-dire abaisser la majorité pénale à 16 ans, enfin, pour parler clairement.
Éric Dupond-Moretti n'en veut pas, et c'est une ligne chez les macronistes qui est intangible. Et là, Gabriel Attal, dans une espèce d'exercice un peu flou, a donné l'impression qu'ils allaient y toucher. À mon avis, ils n'y toucheront pas, ou ça m'étonnerait, ou alors là, ce serait vraiment un grand changement de ligne, et sans doute aussi une exception au niveau européen, il faut le dire. Nos téléspectateurs pensent peut-être, comme beaucoup de Français, que les peines ont été très lourdes pendant les émeutes contre les mineurs. Ça a été reconnu, et même presque une surprise par rapport aux habitudes antérieures. Moi, ce qui m'a surpris dans ce discours ce matin, c'était un discours à la Attal, assez tranché, des phrases courtes, ça tourne pas trop autour du pot, c'est qu'on a l'impression que ce discours, il aurait dû être tenu après les émeutes. Il y a presque un an de retard. Il y a presque un an de retard, en fait, avec ce discours. Alors, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un vrai discours qui tire quelque part les leçons de violence chez les jeunes, croissante, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, dans l'école ou hors l'école, avec un âge de plus en plus jeune. Tout ça est documenté, connu. Et c'est vrai que Gabriel Attal semble reprendre ce discours qui n'a pas été fait, ou seulement partiellement, quoi, par Madame Borne, par Monsieur Dupond-Moretti, par Gérald Darmanin, par le président un peu, après beaucoup de latence, qui a quand même eu, c'est documenté, il y a une commission d'enquête au Sénat la semaine dernière qui a chiffré 50 000 émeutiers, 1500 condamnations, 60% de primo délinquants, 11% qui ont moins de 14 ans parmi les condamnés. Donc c'est très documenté, et on a l'impression que le gouvernement, un peu dos au mur avec les récents faits divers extrêmement violents, extrêmement choquants pour l'opinion, tend à réagir, évidemment, sur fond d'une situation politique assez désespérée pour l'exécutif. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'observe que les fameuses 8 semaines, ça nous emmène au 9 juin, grosso modo.
Oui, même un peu plus loin.
Ça dépend comment vous calculez, mais enfin, en gros, vous êtes dans
ces
eaux-là.
Le 9 juin, on voit bien
qu'il faut aussi occuper cet espace-là, que le gouvernement est un peu à la peine. Et globalement, alors il y a des mesures, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui étaient connus aussi.
Oui.
C'est quand même un canevas de choses un peu connues. Le garde en avait déjà mis beaucoup sur la table. On va voir. Je pense quand même qu'il y a une tonalité, il y a une prise de conscience qui est intéressante à travers le discours de Gabriel Attal. Et je pense, contrairement à ce que dit Je pense qu'il faut agir. Il y a quand même il y a une réponse à apporter à l'opinion. C'est vrai,
c'était
peut-être.
Contrairement à ce que je disais moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas agir. Hein.
Non, mais c'est pas seulement faut agir. Faut agir et réagir. Il faut pas rester en se disant bah oui mais bon Bruno, c'est la société qui est violente.
Bruno,
la société elle est violente. Oui, elle
je suis peut-être quelqu'un d'idéaliste.
Les jeunes sont de plus en plus violents.
Je suis peut-être quelqu'un d'idéaliste, Bruno. Mais moi j'attends des hommes et des femmes politiques qui inventent, qui innovent. C'est-à-dire qu'on a une société qui est mouvante en permanence, qui a profondément évolué. Vous avez raison sans doute. Les phénomènes de violence sont différents, sont peut-être plus nombreux, mais il faut face à ça des politiques nouvelles. On peut pas toujours dire il faut frapper, sanctionner ceux qui sont déjà dépourvus en plus de moyens.
Oui, mais votre réponse, c'est de dire il faut plus de gens dans les écoles, plus de gens autour des gens.
Pas que. Je dis
pas. Il y a peut-être des mesures autour des réseaux sociaux, autour de. Il y a quand même une.
Je dis pas le contraire, Bruno.
Décivilisation d'une partie de la jeunesse.
Je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle de la part des hommes et des femmes politiques.
Je vous dis pas que c'est génial ce qu'il a dit. J'ai pas dit ça.
J'entends, mais je trouve que.
Je trouve même qu'il y a pas beaucoup de créativité. Mais il y a au moins.
C'est pour ça que je disais que j'avais cette espèce de conviction que Gabriel Attal avait cette volonté d'incarner le futur leader de la droite comme Sarkozy a pu l'être. Et je pense qu'il est en train de tracer cette trajectoire-là où il y a une forme de fermeté chez lui, une forme de volonté de réaffirmer de l'autorité. C'est bien pour incarner la droite. C'est bien pour incarner la droite, mais juste
la société,
à un moment donné faire preuve de
plus
d'intelligence politique.
L'autorité, c'est pas que à droite qu'elle s'exprime. Elle est majoritaire dans l'opinion et il y a aussi dans l'électorat, dans un certain électorat gauche.
Carole, on dit toujours que la gauche n'aime pas parler de sécurité, mais la gauche, elle adore parler de sécurité, sauf qu'elle n'en parle pas dans les mêmes termes que la droite en parle. Il y a différentes manières d'envisager la question de la sécurité. Il ne s'agit pas juste de dire qu'il faut renforcer
renvoyer
les gamins dans les prisons ou dans les centres fermés.
D'un retour d'autorité, ça, c'est assez large. C'est vraiment largement partagé. Il y a juste une dernière chose, moi, que je voulais dire, qui va dans le sens, effectivement, d'une certaine volonté électoraliste, c'est qu'il y a, je trouve, un drôle de mélange dans le discours de Gabriel Attal entre la délinquance des mineurs et la violence qui s'exprime dans des établissements scolaires et les atteintes à la laïcité. Honnêtement, ces deux sujets vraiment très différents. Bien sûr que des atteintes à la laïcité peuvent dégénérer en incidents violents, mais c'est quand même deux sujets qui n'ont rien à voir.
Et pourtant, il a bien insisté là-dessus. Il a même parlé de l'antrisme islamiste.
C'est ce que je trouve extrêmement troublant, parce que le dernier des faits divers, il n'y avait pas d'histoire de laïcité. Il y a de la violence, quelquefois, entre très jeunes, pour des histoires de jalousie, enfin, des choses, voilà.
Parce que le Rassemblement National est caracolant en tête dans les
sondages. Ce que je vous dis. Voilà.
Bien sûr, il y a vraiment cette coïncidence-là, qui n'a rien d'une coïncidence, avec l'échéance dans 8 semaines. Mais vraiment, non seulement le Front National, le Rassemblement, est en tête dans les sondages, mais d'une manière qui n'a jamais été vue. C'est-à-dire que l'écart entre Bardella, sa liste, et celle de la majorité présidentielle est de 16, voire 18 points. Je veux dire que c'est du jamais vu à ce point-là. Donc c'est vrai qu'on sent très clairement une vraie fébrilité au sein de l'exécutif, au sein des états-majors. Alors, cela dit, pour le fait divers, d'abord, c'est vrai que c'est pour le coup l'espèce de carte de visite personnelle, vous l'avez rappelé vous-même, quand il était ministre de Gabriel Attal, quand il était à l'éducation, donc ça a été l'abaya. Là, je pense qu'il y a assez clairement, il y a l'allusion à cette jeune fille à Samara, avec l'enquête. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on va toujours assez vite en besogne, sans attendre les enquêtes, etc. Mais enfin, il semblerait que ce soit un peu lié à sa modernité, entre guillemets, c'est-à-dire une jeune fille qui passait pour un peu trop progressiste dans sa tenue.
Plus globalement, sur le discours, moi, je crois qu'en fait, ce discours, il s'adresse surtout aux parents et aux grands-parents, c'est-à-dire à cette clientèle électorale qui a perdu Emmanuel Macron depuis 2 ans.
Et qui n'est pas du tout mobilisé,
et qu'il faut essayer de faire un électrochoc, parce que pour l'instant, rien ne marche quand ils appuient sur les boutons pour que ça démarre.
Alors, on va passer à tout autre chose, enfin, c'est peut-être un petit peu lié quand même. Jean-Luc Mélenchon, est, semble-t-il, devenu persona non grata à Lille, le leader de la France insoumise, devait tenir mercredi une conférence sur l'actualité de la Palestine avec Rima Hassan, une candidate franco-palestinienne de LFI aux élections présidentielles, refus de l'établissement. LFI, du coup, décide d'organiser cette même conférence dans une salle aujourd'hui, jeudi. Nouveau refus, mais cette fois de la préfecture. Jean-Luc Mélenchon, dénonce un abus de pouvoir de République bananière, je le cite, appelant à un rassemblement en plein air à Lille ce jeudi. Pierre, on voit donc Jean-Luc Mélenchon affirme qu'on veut le museler. Il a même reçu le soutien d'Éric Zemmour, qui, sur les réseaux sociaux, affirme qu'on ne peut pas l'empêcher de parler. Qu'est-ce que cela dit ?
J'espère qu'il va recevoir plus que des soutiens d'Éric Zemmour. J'espère que l'ensemble de la classe politique va s'indigner de ce refus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas au programme de Jean-Luc Mélenchon, au discours de Jean-Luc Mélenchon, aux méthodes de Jean-Luc Mélenchon, on est là face à un candidat, parce qu'il est candidat sur les élections européennes, qui mène campagne, et l'État, par le biais de sa préfecture, interdit une réunion publique. C'est quand même du délire. Enfin, on se peut interroger sur la question de notre démocratie, de l'état de santé de notre démocratie. Par ailleurs, vous disiez, il y a eu deux décisions. Il y a eu la décision de l'université, puis celle de la préfecture. Oui. Effectivement, hier, il y avait effectivement cette décision qui a été prise par l'université.
Et donc soutenue par beaucoup de gens qui sont dans l'opposition à Jean-Luc Mélenchon.
Soutenue par certains, réclamé, y compris dans les amis ou ex-amis, je ne sais pas comment il faut dire, de Jean-Luc Mélenchon. Mais on s'aperçoit dans le communiqué de la préfecture que la décision de l'université, elle n'avait quand même pas été prise que par l'université. On sent quand même qu'il y avait quand même déjà la pression de la préfecture derrière sur l'organisation de cette réunion publique à l'université. Mais honnêtement, j'espère, et encore une fois, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas aux propos de Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il est là quand même quelque chose de très interrogatif sur nos libertés, sur la démocratie. Et en plus, on est dans une campagne électorale. On interdit, l'État interdit à un candidat de mener une campagne, mener un meeting public pour des raisons en plus obscures. On va sans doute y revenir, mais franchement, les raisons qui sont listées par la préfecture, on a l'impression de revoir les mensonges de Monsieur Darmanin au moment du stade de, enfin, du foot au Stade de France, du match du Stade de France. C'est franchement un niveau de... Je trouve ça très préoccupant.
Carole, on sait qu'il y a aussi le thème de la conférence qui est importante, la Palestine, avec certains qui affirment qu'il y a une association qui a un logo qui nie l'existence d'Israël et que c'est ça. Voilà.
Une candidate qui était pour un État binational, ce qui revenait effectivement à effacer un peu Israël de la carte. Bon. Mais malgré tout, moi je suis d'accord avec Pierre. Hier, j'étais un peu partagée parce que c'était l'université. Bon, on pouvait se dire, après tout, est-ce que c'est bien le lieu d'une réunion publique ? Mais quand on y regardait de plus près, Raphaël Glucksmann a tenu une réunion à Sciences Po.
La
tête de liste socialiste à Sciences Po récemment. Donc après tout, bon. Et puis alors là, aujourd'hui, effectivement, là, on passe les bornes quand même. Parce que oui, il a quand même... Jean-Luc Mélenchon est un homme politique. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit d'être pro-palestinien. La seule chose, parce que la préfecture... invoque forcément la location en dernière minute d'une salle privée où il n'y aurait qu'une capacité d'accueil de 350 personnes ou quelque chose comme ça et qui sera peut-être largement dépassée. Donc là, il peut y avoir trouble à l'ordre public. Mais enfin, quand même, sur le principe, le leader de la France insoumise a le droit de s'exprimer, surtout quand on est dans une campagne électorale.
Alors, avant de nous faire agir, on va justement écouter Jean-Luc Mélenchon. C'était après le premier refus.
Alors quelle tristesse de voir des petits chafouinages misérables. Celui-ci est d'accord, l'autre n'est pas d'accord, et ceci et cela. Et ils s'y mettent tous, le président de la région, la main sur le cœur, disant « Il ne faut pas laisser les antisémites entrer ni à Lille, ni nulle part dans le pays, dans les universités françaises. » Françaises, pourquoi tu te sens obligé de dire françaises ? Parce que peut-être pour dire que l'université à Casablanca, elle m'ouvre ses portes, mais pas à Lille, c'est ça que tu veux dire ?
Henri Vernet, évidemment, il a prononcé un mot antisémite, parce qu'au-dessus de tout ça, il y a les accusations contre Jean-Luc Mélenchon, contre la France insoumise, que leur antisionisme est en fait un paravent pour de l'antisémitisme.
Oui, mais accusations qui ne viennent pas de nulle part. Hein. C'est vrai qu'il a vraiment joué avec le feu. Il était tout le temps en permanence sur la ligne de crête, et même au-delà de la ligne de crête, Jean-Luc Mélenchon, à dessein d'ailleurs, hein, sachant très bien ce qu'il faisait. Et c'est vrai, alors antisémite, en effet, moi je suis d'accord, est-ce qu'on peut être sûr que quelqu'un est antisémite ? Là, franchement, c'est un anathème qui vient un peu vite, qui est un peu... D'abord, qui est stigmatisant, et je... Je ne connais pas spécialement Jean-Luc Mélenchon, mais enfin, je ne crois pas que ce soit un antisémite avéré, quoi. Donc, on a cette tendance désormais dans le débat public à se balancer comme ça, les anathèmes, et c'est franchement désagréable. Alors, quand je dis qu'il a joué avec le feu, bah oui, depuis le 7 octobre, on a bien vu. Hein, déjà, bon, on ne va pas revenir sur toute la difficulté de lui-même et de son mouvement de LFI à caractériser, à prononcer le mot de terroriste à propos du Hamas qui mène une attaque pareille, un pogrom. Là aussi, il faut employer les mots tels qu'ils sont. Bon, mais depuis, c'est vrai qu'il n'y a eu de cesse d'en rajouter. C'est vrai que Rima Hassan, avec qui il fait campagne, c'est, pourquoi pas avoir Rima Hassan sur une liste ? Au contraire, c'est plutôt c'est à l'honneur de la France aussi d'accueillir vraiment et de promouvoir une certaine diversité. Mais de là à en faire un argument du matin au soir en permanence dans une campagne européenne, et puis surtout, c'est vrai, là pour le coup aussi, de se payer deux mots, de balancer comme ça un autre mot, génocide. Bon, là, enfin, on tombe vraiment dans des débats assez caricaturaux. Néanmoins, pour terminer, moi aussi, je suis étonné, et plus que ça, en effet, d'une interdiction d'une réunion publique. Alors, bien sûr, vous avez raison, hein, il y a les arguties qui sont employées, les arguties ou les arguments peut-être valables sur l'ordre public, d'accord. Mais déjà, pour l'université, c'était un peu tangent, parce que, OK, l'université, oui, c'est le lieu du savoir, mais enfin, si on ne débat pas d'une question quand même qui se pose à chaque citoyen, à chaque Français. Bah oui, ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et les Palestiniens, c'est un problème et ça mérite débat. Enfin, on est concerné, on est aux premières loges en quelque sorte. Et puis même en tant que tout simplement citoyen du monde. Donc qu'on en débatte dans une université, il se trouve que c'est en raid électoral, d'accord. Mais enfin, ça me paraît quand même assez normal. Alors que l'université, certes sous pression, ça c'est très clair. Néanmoins que l'université juge qu'il vaut mieux faire ce débat une autre fois, pas dans ce contexte. Bon, à la limite, on peut l'admettre. Mais là, maintenant qu'on se mette en effet à interdire des réunions publiques, à interdire en quelque sorte le débat, attention, quoi. Non, vraiment, ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance à nous-mêmes, qu'on ne fait pas confiance dans nos capacités démocratiques françaises aujourd'hui. Donc oui, ça devient quand même un problème. Je dis ça devient parce que c'est une dérive qui est... Enfin, c'est une tendance des deux côtés d'ailleurs, hein, mais qui devient récurrente, quoi.
Bruno, ceci dit, électoralement, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour Jean-Luc Mélenchon de se décrire.
Ça remet un peu le projecteur sur sa liste, Manon.
Qui, on a vu un sondage passer rapidement.
Tête de liste, Manon Aubry est quand même un peu en difficulté. En tous les cas, la percée à gauche, c'est plutôt au crédit de Raphaël Glucksmann qu'à Manon Aubry, voire la liste écologiste Marie Toussaint. Manon Aubry, elle pâtit aussi quand même à la fois...
7,5 hein,
Ouais, on voit bien. Alors, ça marche un petit peu mieux que Marie Toussaint. En tous les cas, là, ce qui se passe, ça remet un peu les projecteurs sur la liste LFI qui traîne entre 7 et 8 et 8,5. Donc, on voit bien que ça va être compliqué pour être devant la liste socialiste, qui sera la surprise, parce que c'est vrai qu'à gauche, il y a une espèce d'inversion. La dernière fois, c'était plutôt les socialistes qui étaient derniers à gauche, et cette fois-ci, ils seraient premiers à gauche, même si le score reste quand même assez médiocre pour l'instant dans les sondages. Moi, je ne ferai pas exception, je suis assez choqué qu'on puisse interdire des réunions publiques. Je ne partage pas du tout les idées de Jean-Luc Mélenchon. J'étais assez choqué que de l'autre côté de la frontière, en Belgique, à Bruxelles, Saint-Josse, le bourgmestre interdise une réunion de toutes les populistes de droite d'Europe, d'Orban à Zemmour, en passant par quelques autres, Farage notamment. Pas des personnages qui, par ailleurs, notamment Orban, s'illustrent par le respect des libertés dans leur propre pays. Mais au fond, la liberté commence avec celle des autres. C'est la règle en démocratie. Et si nous-mêmes, Européens, on ne respecte pas ces règles, alors là, on a déjà perdu beaucoup de choses, mais là, on aura tout perdu. Donc oui, il faut permettre à Jean-Luc Mélenchon de tenir ses réunions. Comme à Zemmour, il faut lui permettre de tenir ses réunions. Pendant la campagne présidentielle, il y avait des gros problèmes aussi en 2022. Donc oui, il faut permettre à tous ces courants politiques de tenir leur réunion et tenir cette ligne-là. Et franchement, je ne sais pas qui prend les décisions, si c'est au niveau du ministère de l'Intérieur, au Matignon, ou si c'est du zèle de préfet, ce qui m'étonnerait. Mais il serait bien inspiré de se reprendre sur ce terrain-là.
Très bien, et bien c'est l'heure de la politique sur les réseaux.
Bonjour.
Voilà, une arrivée au sprint de Véronique Reissoult, la directrice de Backbone Consulting, qui s'entraîne pour le 100 mètres.
Ben voilà, la des JO.
Voilà, alors on ne va pas parler des JO.
Non,
on va parler des... Ce n'est pas les 100 mètres, mais c'est les 100 jours, ça tombe bien, voilà. Parce que ce sont les 100 jours de Gabriel Attal. Alors, que se passe-t-il dans l'opinion? Est-ce que les Français le célèbrent, le fêtent?
Alors, les Français, déjà, s'intéressent énormément à notre Premier ministre. Quand on regarde et on fait une courbe de visibilité, il y a une espèce de pic incroyable, forcément, au moment de sa nomination. Les Français s'y sont intéressés, l'étranger aussi. Voilà, tout le monde s'est dit, tiens, quel est cet homme? Globalement, c'était l'effet de surprise et énormément de commentaires autour de son âge et de son parcours. Mais depuis, ça continue. On s'intéresse toujours. On fait très attention à tout ce que dit le Premier ministre. Ça n'a pas été le cas de tous les Premiers ministres. C'est son cas à lui. 7,6 millions de messages depuis sa nomination. Donc, on peut dire qu'il est scruté, écouté. La question qu'on a posée, puisqu'on a fait un sondage pour le Figaro autour des et Doxa pour ses 100 jours, la question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous trouvez que c'est un bon Premier ministre? 48% des Français disent oui. Donc on va dire qu'il a une courte minorité de 50, trucs. 50, voilà, 50-50. Donc globalement, une image plutôt...
Jusqu'à présent, ça va.
Jusque-là, tout va bien. Après, on lui dit, est-ce que vous... On a posé la question, est-ce que vous êtes content du bilan? Alors là, un peu moins bien. Surtout sur trois items importants qui sont la gestion des comptes publics, l'immigration et le pouvoir d'achat. Globalement, les Français ne sont pas très satisfaits du bilan de M. Attal sur ses 100 jours. Donc on se dit, ah bon, ok. Mais donc globalement, ça ne doit pas être formidable non plus sur son image, si on n'est pas satisfait. Eh bien non, figurez-vous qu'à l'inverse sur son image, quand on demande aux gens, est-ce que vous trouvez que M. Attal est quelqu'un de dynamique, de sympathique, d'ouvert au dialogue ou de compétent? Eh bien oui, on lui attribue largement ses qualités. Donc globalement, les gens trouvent que c'est plutôt un bon Premier ministre, enfin voilà, à 50-50. Un jugement sur le bilan plutôt pas bon et un jugement sur l'homme plutôt bon. Donc on se dit, mais quel est ce paradoxe? Comment on peut l'expliquer? Eh bien, en fait, globalement, c'est que les Français considèrent que le bilan, c'est pas vraiment son bilan, c'est plutôt le bilan du président de la République. Et là, c'est assez sans appel quand on dit, bah, entre les deux hommes, qui préférez-vous? C'est pas un sujet de confiance. Là, ça pique un peu. Globalement, voilà, Monsieur Attal est largement préféré au président de la République. Donc, les choses ont le temps d'évoluer, mais c'est un résultat extrêmement étonnant et c'est le premier ministre à avoir un résultat de ce type-là.
Ça va peut-être lui donner des idées.
Peut-être. Là, on a posé la question que... Alors, on a aussi posé la question, est-ce que vous trouvez que ça serait un bon candidat pour remplacer M. Macron? C'était celui qui sortait en premier, tout proche de M. Édouard Philippe, mais on voit qu'il monte. Et c'était moins flatteur pour M. Le Maire et M. Darmanin. Voilà. Ouais. Je me suis dit qu'on n'en parlait pas là. Donc, c'est pour ça que j'en parle.
Très bien. Alors, autre sujet important de la semaine, on en a déjà un petit peu parlé à travers un sondage, la campagne des européennes.
Ouais.
Alors, il semble qu'elle soit spécialement visée par la désinformation, cette campagne.
Alors oui, on en parle souvent ensemble, c'est toujours un sujet, il faut être vigilant. On sait qu'aujourd'hui, il y a des campagnes de désinformation, des fake news, enfin voilà. Je vais vous en lister trois parce que c'était intéressant de regarder en soi, puisque globalement, on peut parler de crise, et quand on parle de crise, la première des choses, c'est d'identifier, la deuxième, c'est de qualifier, et après, c'est de gérer. Alors, dans les sources de fausses informations, il y en a, ce sont les candidats eux-mêmes. Vous avez dû entendre parler de cette charmante députée, Juliette de Caussan, qui a, voilà, une très jolie photo de cette charmante jeune femme qui a un physique fort avenant. Eh bien, figurez-vous qu'elle a elle-même retouché ces images grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, les internautes, forcément, l'ont repéré. Donc, ils se sont un peu moqués. Donc, voilà, je vous en ai sélectionné une. La vraie jeune femme, la voici. Et encore, c'est l'image peut-être la plus proche en soi. Voilà, vendredi soir, lundi matin, comment vous dire, quelques moqueries. On peut se dire que ça n'est pas très grave parce que d'abord, celle qui l'a fait et puis les uns et les autres se sont moqués. Mais globalement, c'est quand même un début de sujet en soi. Les internautes ont identifié.
Mais je crois qu'elle assume de l'avoir fait parce qu'elle oui, a fait parler alors, d'elle, du coup, quand même.
Oui, mais comme elle avait déjà fait en mars 2023, la théorie de « je l'ai fait là, pour ça, ça marche moins bien », parce que là aussi, le web a de la mémoire, et donc les gens l'ont ressorti, on disait « elle l'avait déjà fait ».
Et en plus, ils ont... ça marche pas.
Pas tellement. Puis en plus, elle a changé de liste entre-temps, les choses n'étaient pas claires. Okay. Donc, voilà. Mais... Moi, je retiens que l'intelligence artificielle utilisée...
N'est qu'artificielle.
Mais voilà, après, on peut avoir une longue discussion aussi sur pourquoi est-ce qu'elle a choisi
cela dit, changer de mot, changer de liste, c'est cohérent.
c'est cohérent, ouais. On est d'accord. Mais c'est...
Ça fait parler des écolos, c'est bien.
En plus. Ça fait parler des écolos, tout à fait. Après, voilà, c'est la première source. Deuxième source, elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas voulue, mais en tout cas, c'est plus embêtant. Et d'ailleurs, je me demandais si vous connaissiez Marc Léna Maréchal, qui a plus de 32 000 followers. Est-ce que vous connaissez Amandine Le Pen? Eh bien, ce sont des charmantes influenceuses qu'on trouve sur TikTok. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, elles se mettent en scène dans des situations où on les voit danser, on les voit chanter, on les voit dévoiler des parties de leur corps et avancer des arguments pour dire que la famille Le Pen et le Rassemblement National, c'est absolument formidable. Voilà, ou que Reconquête est aussi un parti honorable. Bon, évidemment, ce sont des deepfakes. Évidemment, ce ne sont pas les nièces ou les filles de la famille Le Pen. Ce sont des jeunes femmes qui n'existent pas du tout. En fait, la mécanique, elle est assez simple. On prend une vidéo, on place le visage de quelqu'un, on l'anime. Autrefois, c'était réservé à des gens qui avaient du matériel assez pointu. Aujourd'hui, à peu près tout le monde peut le faire. Alors, on va dire que la bonne nouvelle, c'est là encore, si on fait confiance aux internautes, ils l'ont repéré, ils se sont interrogés. Alors au début, ils l'ont repéré pas forcément pour dénoncer, en disant « bah dis donc, la famille Le Pen ». Voilà, bon, en tout cas, ça a permis de repérer. On va dire que là aussi, la bonne nouvelle, c'est quand vous avez des professionnels comme nous qui ont des outils, qui identifient, après on peut prendre contact avec TikTok, on peut demander de les retirer, on peut demander de faire fermer les comptes, ce qui s'est passé. Donc on va dire que c'est plus, il faut que les gens soient vigilants, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont fait piéger au début, qui ont vraiment cru que c'était des gens de la famille Le Pen, qui ont vraiment cru que Léna Maréchal et ses 36 000 followers, c'était vraiment une nièce de la famille Maréchal. Et donc voilà. Donc, être vigilant.
On sait qui est à l'origine ou pas ?
Il y a des longs débats. Globalement, l'une des personnes qui l'avait créée a dit qu'elle l'avait créée pour informer les gens, qu'il y avait des deepfakes. Moyen crédible, honnêtement, elle a dit que c'était pas pour des raisons politiques, mais des raisons pédagogiques, sauf que les messages étaient quand même un peu en soutien du Rassemblement national.
Et ça a quel type d'influence, justement, sur la candidature de Marion Maréchal ou d'une...
C'est toujours la même histoire, c'est qu'en soi, comme ça s'adresse sur TikTok à des jeunes qui vont regarder, ça travaille la notoriété, parce qu'il y a plus de jeunes qu'on imagine qui ne connaissent pas forcément la famille, et puis ça donne des arguments hautement intéressant et pointu, mais si tu dis là c'est celui-là, si tu dis que les gens de droite c'est des gens qui sont pas sympas, bah voilà, regarde, si tu veux débattre avec moi, donc ça joue, mais ça fait pas vote, mais ça joue sur la notoriété.
Comment ? D'autant plus qu'ils votent pas beaucoup, les jeunes, malheureusement.
Mais c'est un sujet en soi, en tout cas, et c'est un sujet sur la désinformation. Alors après, dans les désinformations, il y a des trucs encore plus subtils. Je vais vous montrer une petite vidéo. C'est pas une désinformation, et pour autant, c'en est une. Si vous regardez, voilà, je vous laisse l'écouter.
Son nom facile à retenir, mémorable. La femme qui défend nos valeurs chaque jour. Tout le monde la connaît, elle est formidable. Valérie Ayer, ne votez pas ailleurs, c'est elle sur l'image. Retenez bien son visage.
Alors, ça ressemble à un clip de campagne. Les gens se sont moqués parce qu'il est un petit peu cucu, on peut se le dire. Hein. Mais c'est pas de la désinformation en soi, parce qu'il n'y a rien de critique. C'est pas.
Non, c'est vraiment
un montage. Et c'était pour vous dire qu'en fait, il y a des choses très. C'est assez compliqué. Alors, évidemment, ça a été dénoncé. Les uns et les autres ont dit que non. Sur Facebook, il y a plein de gens qui ont expliqué pourquoi, comment. Enfin voilà. Ça n'est pas désagréable pour elle. C'est juste, voilà, il se moque de son manque de notoriété. Mais dans le fond, si la vidéo devenait virale, voilà, pourquoi pas. Mais c'est juste pour dire que. Aujourd'hui, la désinformation, elle va loin. On me dit que c'est fini. Je voulais vous parler de Glucksmann.
Il allait le faire pour tous les candidats et candidates.
Oui, mais c'est pour expliquer qu'en fait, c'est compliqué, cette notion de fake news et de désinformation. Ouais. Il y a des choses qui sont provoquées par les candidats eux-mêmes. Il y a des choses beaucoup moins élégantes. Il y en a d'autres qui peuvent être prêtées à sourire. Et puis après, il y a des désinformations comme celle autour de M. Glucksmann qui sont sans preuve, compliquées. Voilà. Allez, au revoir.
Merci beaucoup à tous, merci beaucoup Véronique, et à la semaine prochaine ici sur France 24.